Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 décembre 2018. En direct de Washington, Jean-Roger Dion
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Le fichier électoral en RDC amputé d'au moins 1 million d'électeurs après le report du scrutin à Beni, Butembo et Yumbi. L'opposition dénonce mais reste dans la course.
Cinq chefs d'État africains réunis mercredi à Brazzaville se sont inquiétés de la montée de la violence en RDC. Ils ont décidé de dépêcher à Kinshasa une mission pour porter les conclusions du sommet au président Joseph Kabila.
La justice française décide d'un non-lieu au sujet de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, événement déclencheur du génocide rwandais.
Visite surprise de Donald Trump en Irak, c'est la première sortie en zone de conflit pour le locataire de la Maison Blanche.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Nouveau rebondissement dans le feuilleton électoral en RDC. En addition au changement de date, la semaine dernière, le scrutin prévu le 30 décembre est reporté une nouvelle fois dans trois localités du pays. La CENI évoque l'épidémie d'Ebola et l'insécurité pour justifier le renvoi des élections en mars à Beni, Butembo et Yumbi. Notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdurrahman Dia, explique les derniers développements.
La majorité présidentielle affirme qu'elle comprend la décision de la CENI tout en exhortant les populations à attendre dans la sérénité le jour du vote et celui de la proclamation des résultats. Pour sa part, l'Union pour la démocratie et le progrès social a réitéré qu'elle irait aux élections même avec ce nouveau report. Donc pour le parti de Félix Tshisekedi, il est hors de question de boycotter. Sur Twitter, l'opposant Martin Fayoulou parle de prétextes fallacieux car la campagne s'est déroulée dans les localités en question. Mais la coalition Lamuka, qui soutient sa candidature, a promis de donner plus de détails sur sa position ce jeudi. Le candidat Théodore Ngoï, lui, qualifie d'illégal ce report dans trois localités. Plus d'1,2 million électeurs ne participeront pas donc au choix du prochain président de la République, car ce dernier sera investi le 18 janvier, soit trois jours après la publication des résultats définitifs. Les résultats provisoires, eux, seront connus le 5 janvier. La CENI estime que le code électoral permet de ne tenir compte que des suffrages valablement exprimés en cas de circonstances exceptionnelles. Abdurrahman Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
De nombreuses réactions à ce report sectoriel des élections en RDC dans la seconde partie de cette édition.
Cinq chefs d'État africains réunis mercredi à Brazzaville ont exprimé leur vive préoccupation face aux actes de violence pendant la campagne électorale en République démocratique du Congo. Malgré l'absence des autorités de la RDC à cette rencontre, un appel à l'apaisement et à la retenue a été lancé à la classe politique et à la société civile. Compte rendu de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les quatre chefs d'État de la SADC qui ont rejoint Denis Sassou Nguesso à Brazzaville se sont dit vivement préoccupés par la récente montée de violence en RDC. Le Congo-Brazzaville, l'un des 9 voisins de la RDC, a déjà accueilli sur son sol près de 8000 personnes fuyant le conflit interethnique dans la province de Maïndombe. Dans un communiqué publié à Brazzaville, les cinq chefs d'État ont encouragé le gouvernement de la RDC à continuer de sécuriser les candidats aux différentes élections ainsi que les populations.
Les chefs d'État ont rappelé la nécessité de mettre en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo. Ils ont salué l'engagement du processus électoral et l'ouverture de l'espace public en République démocratique du Congo. Aussi ont-ils fermement condamné les violences perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont appelé la classe politique et la société civile à l'apaisement et à la retenue en vue de la tenue des scrutins dans la sérénité.
Les présidents de l'Angola, de la Namibie, du Botswana et de la Zambie ont pris part au sommet de Brazzaville. Kinshasa n'a pas envoyé de délégation à cette rencontre, mais cela n'a pas empêché les cinq chefs d'État réunis à Brazzaville d'envoyer une mission auprès des autorités de la RDC dans le but de leur faire part des conclusions du sommet. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994 ont rendu une ordonnance de non-lieu mercredi. Le parquet a estimé que l'enquête n'avait pas révélé de charges suffisantes pour justifier de renvoyer devant un tribunal les 8 personnes mises en examen dans ce dossier, la plupart proches de l'actuel président rwandais, Paul Kagame.
L'avocat des parties civiles rwandaises, dont la veuve du président Agathe Habyarimana, a annoncé à Reuters qu'il avait fait appel de cette décision mercredi. L'attentat est considéré comme l'élément déclencheur du génocide qui a coûté à l'époque la vie à 800 000 personnes dans ce pays de l'Afrique des Grands Lacs. Ce dossier empoisonne les relations entre Paris et Kigali depuis plus de 2 décennies.
Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'adressera à la nation lors d'un discours du Nouvel An depuis Rabat, où il se trouve en convalescence, a annoncé à l'AFP une source proche de l'entourage du chef de l'État gabonais. Ce sera la première prise de parole de M. Bongo depuis qu'il a été hospitalisé le 24 octobre en Arabie Saoudite à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Sur place au Gabon, 3 dirigeants de partis d'opposition ont demandé qu'une équipe médicale constituée sur une base consensuelle aille voir le président à Rabat pour déterminer s'il est en mesure d'assumer ses fonctions. Si ce n'était pas le cas, la vacance du pouvoir devrait être déclarée conformément à la Constitution, selon eux.
Les régions du centre du Mali vont bénéficier du programme du DDE à l'instar des 5 autres régions du nord du pays. L'information a été donnée par le premier ministre Soumeilou Boubey Maïga lors de sa dernière visite à Mopti. Une rencontre de 2 jours sur la question a regroupé les principaux acteurs à Mopti. Notre correspondant dans la région, Mamoudou Boukoum, nous en dit plus.
Pour cette rencontre, il s'agit du démarrage du programme de réduction de la violence communautaire dans les régions du centre, Mopti et une partie de Ségou. Elle regroupe les principaux acteurs, notamment les groupes armés et les milices d'autodéfense. Zahabi Ould Sidi Mohamed est le président de la commission nationale du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion.
Il s'agit de récupérer toutes les armes de guerre qui circulent dans cette région, avec la prolifération des désormais, ne doivent être détenteurs des armes que les seuls représentants légitimes de la force publique de l'État.
C'est un processus qui commence et le coordinateur régional du DDR, capitaine Omar Diko, explique.
Ces registres consisteront à enregistrer tous les combattants. Par combattant, nous pensons à ceux-ci qui détiennent des armes de guerre.
C'est une première étape et le DDR proprement dit devrait commencer en mars 2019, comme l'indiquent ses responsables. Mamoudou Boukouma Mofti pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump et son épouse Melania se sont rendus hier en Irak. Il s'agit de la première visite du président américain en zone de conflit depuis son élection il y a 2 ans. Le point avec John Lyndon.
Le président a atterri hier soir sur la base aérienne d'Al-Assad, à l'ouest de Bagdad, dans la province d'Al-Anbar. M. Trump a défendu sa décision de retirer les troupes américaines de la Syrie lors de cette visite surprise. Il a déclaré que beaucoup de gens vont adopter sa façon de penser, ajoutant qu'il est temps, et je cite, que nous utilisions notre tête, fin de citation. Accompagnés de la première dame, Melania Trump, ils ont passé 3 heures à rendre visite aux troupes américaines. M. Trump et la première dame des États-Unis se sont envolés pour l'Irak tard le soir de Noël afin de remercier les soldats américains pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice et pour leur souhaiter joyeux Noël, a écrit la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, dans un tweet accompagné d'une photo montrant le couple en compagnie de jeunes militaires américains.
Le Parlement israélien a voté mercredi en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre cette assemblée et à organiser des élections anticipées le 9 avril. La loi prend effet immédiatement, le Parlement étant dissous jusqu'aux élections, tout juste 4 ans après le dernier scrutin en mars 2015. Le gouvernement reste en place, mais ne peut pas prendre des décisions nécessitant l'accord du Parlement, comme le vote de nouvelles lois.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé mercredi la levée de la loi martiale, un instaurée fin novembre dans plusieurs régions frontalières ukrainiennes à la suite d'une confrontation maritime avec la Russie au large de la péninsule annexée de Crimée. Selon le président ukrainien, la décision de lever la loi martiale se fonde sur l'analyse de tous les éléments de la situation actuelle dans le domaine de la sécurité dans le pays.
Et maintenant, la minute écho avec Nani Talani.
Le Tchad obtiendra du FMI 48,6 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Selon Ecofin, ce nouvel appui financier aidera le pays à maîtriser la masse salariale ainsi qu'à améliorer la mobilisation des recettes intérieures et la gestion des finances publiques. Il sera aussi essentiel de renforcer la lutte contre la corruption. Le FMI relève qu'en dépit de certains retards, les réformes structurelles entreprises par les autorités tchadiennes se poursuivent de façon satisfaisante. Le Burkina Faso bénéficiera de 25 millions de dollars de la part du FMI pour financer les réformes du gouvernement. Ce financement, qui fait partie d'une facilité élargie de crédit, vise à permettre au pays d'accélérer les réformes visant à améliorer sa situation économique. Ceci devrait passer notamment par la création d'un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires en matière d'investissement, de sécurité sociale et de sécurité intérieure par le biais d'une mobilisation accrue de recettes. Terminons avec le pétrole qui rebondit de 6% après une forte baisse, mais les craintes de croissance pèsent toujours. Le brut américain a progressé de 2,86 dollars le baril, pour atteindre 45,38 dollars le baril. L'indice de référence mondiale, le Brent, a progressé de 3,12% pour atteindre 53,59 dollars le baril. Plus tôt, il était tombé à 49,93 dollars, le plus bas niveau depuis juillet 2017.
À présent, la page de soi avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Manchester City dépassé par Tottenham en Premier League.
C'est un boxing day à oublier pour Man City. Défait hier pour la deuxième fois d'affilée, cette fois à Leicester 2-1. Les Citizens sont désormais troisième à 7 points du leader Liverpool. L'âge vainqueur de Newcastle 4-0 pour la 19e journée de Premier League. Everton a signé l'autre carton du Boxing Day, 5-1 à Burnley. A l'inverse de City, Tottenham a cartonné face à Bournemouth 5-0 et s'est offert la deuxième place du championnat anglais. Pour l'autre club de Manchester United, l'effet Solskjaer s'est poursuivi contre la lanterne rouge Huddersfield, 3-1 avec un doublé de Paul Pogba. Deuxième victoire en deux matchs pour l'après Mourinho.
En Italie, Ronaldo a sauvé la Juventus.
Oui, la Juventus Turin est passée tout près de sa première défaite de la saison en Serie A sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Laissée sur le banc pour la première fois de la saison par Massimiliano Allegri, qui avait annoncé qu'il lui donnerait un peu de repos, le Portugais est entré pour égaliser 2-2. Après 16 victoires et un match nul, le quintuple Ballon d'Or préserve ainsi l'invincibilité de son équipe.
Timothy Weah va être prêté par le Paris Saint-Germain.
Oui, le PSG a annoncé que l'international américain va quitter ses coéquipiers pour un prêt de 6 mois sans indiquer le nom de son nouveau club. Fils du président libérien George Weah, Timothy ne précise pas non plus sa destination dans son message publié sur Instagram. Mais selon la presse britannique, l'attaquant de 18 ans pourrait rejoindre le Celtic dans le championnat écossais. Cette saison, il a fait 3 apparitions sous le maillot du PSG, dont 2 en championnat pour un but de marqué. Weah, né à New York, s'est imposé dans le même temps en équipe des États-Unis avec 8 sélections et 1 réalisation.
Sagna prolonge avec Montréal.
Oui, l'ancien international français a prolongé son contrat avec Montréal jusqu'à la fin de la saison 2019, d'après l'annonce faite par cette équipe du championnat nord-américain de football MLS. Bakary Sagna, 35 ans, a été recruté en cours de saison dernière par l'Impact en provenance du club italien de Benevento. L'ancien latéral droit d'Arsenal et de Manchester City a disputé 9 matchs et marqué 1 but sous le maillot du club québécois. NBA, pour finir avec vous, Jean-Roger, les résultats de la nuit dernière.
Oui, Yakuba, les Wizards de Washington ont plié les Chines devant Detroit 95-106. Phoenix a devancé Orlando d'un panier 122-120. Indiana est venu à bout d'Atlanta 129-121. Charlotte coiffée au poteau par les Nets de Brooklyn 132-134. Toronto a battu Miami 106-104. Et Minnesota a fait une bonne affaire devant Chicago Bulls 119-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous sommes le jeudi 27 décembre 2018. De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers de ce jour. En RDC, le report au mois de mars des élections à Beni, Butembo dans l'Est et à Yumbi dans l'Ouest suscite encore des réactions. Beaucoup se demandent si les résultats de la présidentielle, qui se tiendront trois mois après la publication des résultats prévus le 6 janvier et l'installation du nouveau président, seront pris en compte. Eddie Sango.
À la question de savoir si les résultats de la présidentielle de ces trois entités pourraient être pris en compte et de quelle manière, la CENI se réfère aux mesures d'application de la loi électorale. Suivons les explications du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
Il faut lire le texte de l'ordre du Congo, va lire l'article 84. Il est prévu que, dans des conditions exceptionnelles, si la CENI n'arrive pas à organiser les élections dans certaines circonscriptions, le processus continue, on définit tout ce qu'on doit faire. Et ce qu'on dira, on ne tiendra pas compte, il n'y a pas eu élection. Non seulement pour Ben, si le jour de vote qui se déroule là, un bureau ou une circonscription n'est pas aussi dans les possibilités d'organiser les élections. Encore, on fait les calculs sur les voies disponibles, c'est ce que dit la loi.
Les différents partis ont réagi à ces reports. Les Fonds pour le Congo, Coalition au pouvoir, qui est derrière les candidats Emmanuel Ramazani Shadary, soutient la décision de la CENI. Mais l'opposition ne l'accepte pas, mais affirme qu'elle ira tout de même aux élections dimanche 30 décembre. Le secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Jean-Marc Kabound, l'a dit à VOA.
Ça présage un cafouillage total. Auquel le peuple congolais serait appelé à vivre. Donc, c'est inconcevable que la CENI, déjà après un report du 23 pour le 30, qu'elle ne soit pas à même de remettre aux regroupements et partis politiques qui voudraient accréditer leurs témoins des macarons d'accréditation. C'est dommage, vraiment. Vous allez constater avec nous que la CENI n'était pas prête ou carrément elle faisait semblant d'organiser les élections. Mais tout en n'étant pas prête. Donc, nous avons délégué le président de la CEP et une délégation, en fait d'une délégation de l'UDPEC à la CENI, pour tirer cette histoire au clair. Comment est-ce que nos témoins accrédités n'ont pas encore de macarons? Où ils ne veulent pas la présence de ces témoins dans des bureaux de vote, qu'ils nous les disent.
Cette décision est la même pour la coalition Lamouka qui soutient l'opposant Martin Fayoulou. Mais à Beni, des membres de ces cartels ont promis de manifester et ont appelé la population de ces territoires à aller massivement dimanche au lieu de vote pour faire acte de leur devoir citoyen, quand bien même leurs voix ne seront pas officiellement prises en compte.
La majorité présidentielle en RDC a fait savoir qu'elle comprend la décision de la CENI de reporter les élections dans trois localités et elle exhorte les populations à attendre dans la sérénité le jour du vote et celui de la proclamation des résultats. Abdourahmane Dia, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa, a demandé au porte-parole du Front commun pour le Congo qui soutient la candidature d'Emmanuel Shadary de réagir. On écoute Alain-André Atundu.
La question que je me pose, c'est en faveur de qui ? La CENI est une institution d'appui à la démocratie et qui comprend en son sein des membres de la majorité, des membres de l'opposition et des membres de la société civile. Alors, quelle est la branche qui organise ces élections chaotiques ? Au bénéfice de quelle branche ? Tout ceci me semble être de la pure spéculation et répond plutôt au projet initial de cette opposition bien connue, radicalisée, d'instaurer une transition sans Kabila. C'est la seule explication plausible.
Ils estiment que l'organisation d'une élection chaotique profiterait à votre candidat.
Quel candidat? Je posais la question au départ, profiterait à qui? Puisque à l'intérieur, il y a toutes les composantes. Et donc, toutes les composantes se sont entendues pour promouvoir un candidat. Je crois qu'il faut respecter les gens dans leur travail en considération des sacrifices énormes qu'ils font et de la compétence avérée qu'ils ont à travers l'Afrique.
Et quelle est votre position sur la machine à voter, la méthode de transmission? Parce qu'ils soupçonnent la CENI de vouloir transmettre les données par voie électronique.
Bon, la machine à voter ne fait plus débat. Je crois que vous êtes rendu compte qu'il y a un consensus autour de l'utilisation de la machine à voter. Les autres débats techniques, je ne voudrais pas y perdre mon temps parce que c'est une façon de distraire notre candidat et de favoriser cette atmosphère de chaos propice à l'établissement, à la suspension de la CENI, comme il demande, et à l'établissement d'une transition sans Kabila.
Et quand vous entendez certains parler de candidats de substitution au président Kabila, ça vous fait quoi en tant que membre de la majorité?
D'abord, est-ce une injure? Mais nous n'avons rien à cacher. Qu'ils lisent le statut du FCC. Le FCC, c'est un instrument, n'est-ce pas, mis en place par le président Kabila, disons pour que ses partenaires puissent garder le pouvoir, l'exercice de pouvoir, et que dès que les conditions constitutionnelles le permettent, il pourra se relancer dans la bataille. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de ministère. On ne peut pas empêcher à un homme politique de s'organiser.
Pour terminer, un sommet régional se tient aujourd'hui à Brazzaville. Qu'est-ce que cela vous inspire? Les voisins de la RDC sont-ils inquiets? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tel sommet selon vous?
Non, je ne sais pas. Il faut poser la question à Brazzaville, pourquoi ce sommet? Mais cela ne m'étonnerait pas qu'ils puissent parler de la République. Je sais que nous sommes membres de la CIRGL et que nous n'y participons pas, mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'un
membre... Pourquoi vous n'avez pas été invité?
Ce n'est pas la première fois qu'un membre d'une organisation ne participe pas à une réunion. Nous avons certainement plus à gagner, à organiser des élections, plutôt qu'aller éventuellement faire des déclarations d'intention, nous justifier, etc.
Alain-André Atundu, porte-parole du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition au pouvoir en RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les Burkinabés devront faire face à de nouvelles taxes en 2019. C'est ainsi que le gouvernement compte réduire son déficit budgétaire. Ainsi, les véhicules, les boissons non alcoolisées, les billets d'avion et bien d'autres produits connaîtront une hausse. L'opposition s'insurge contre ce nouveau régime fiscal, tandis que la population estime que la vie est déjà trop chère dans le pays. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le gouvernement burkinabé a récemment adopté son budget 2019 et le compte n'y est pas. Le déficit se chiffre à plus de 250 milliards de francs CFA. Comme solution, l'exécutif a décidé d'augmenter les recettes en créant de nouvelles taxes. De nouvelles mesures fiscales qui concernent les véhicules, les boissons non alcoolisées, les billets d'avion, la parfumerie, les armes à feu, le café, le thé et bien d'autres produits.
Pour les véhicules à 4 roues, jusqu'à 8 chevaux, c'est 7 000 francs.
Rosine Souri Koulibaly est la ministre de l'économie.
De 9 chevaux à 15 chevaux, c'est 10 000 francs. Et de 16 chevaux à 20, 20 000 francs. Plus de 20 chevaux, 30 000 francs. Donc voilà un peu les mesures qui ont été prises et pour lesquelles il y a tout un tollé pour dire qu'on est en train d'imposer tout le monde. On a vraiment choisi les secteurs pour lesquels nous pensons que nos mamans qui sont dans le village, qui ne peuvent pas donner un repas chaud à leurs enfants, que ces personnes-là ne sont pas concernées par les nouvelles mesures fiscales.
L'opposition a voté contre la loi des finances 2019, estimant que cette loi va diminuer davantage le pouvoir d'achat des Burkinabés.
Nous avons dit que ce budget opère un matraquage fiscal.
Alphonse Nombré est député du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès.
Il y a de nouveaux impôts qui ont été institués, qui viennent même remettre en cause des acquis sociaux pour l'investissement. Vous savez que c'est l'investissement qui crée la richesse dans un pays. Alors, en ce moment-là, quel est le projet du gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations? Nous posons la question.
Pour une bonne partie de la population, c'est difficile de tenir le coup dans ce contexte de vie chère. Patrice Tiambiano, habitant à Ouagadougou.
Vu tout ce qui est en train de se passer, on ne fait que subir. On a beaucoup de taxes même qu'on paye, on s'en sort pas, et cela vient s'ajouter. Vraiment, c'est pas chose facile pour ce pays-là.
Yacouba Diouni, aussi habitant à Ouagadougou, pense que c'est normal de payer les taxes.
Si on vit des taxes, on n'a pas pétrole ici. L'or là aussi, ça ne nous profite pas. Comment on va faire? Il faut une contribution seulement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel.
Cette mesure du gouvernement intervient quelques semaines après l'augmentation des 75 francs CFA. Le litre de carburant, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Tunisie, de nouveaux heurts ont éclaté après l'immolation par le feu d'un journaliste à Kasserine, dans l'ouest du pays. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations populaires contre la dictature de Zinedine Ben Ali. Est-on en train d'assister à un nouveau printemps arabe? Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami, directeur de l'info du journal Le Quotidien à Tunis.
Non, pas vraiment. Je pense qu'il s'agit d'un acte isolé qui dénote plutôt d'une situation sociale difficile vécue par des jeunes tunisiens qui ne parviennent pas à faire face aux difficultés de la vie. Ce ne sont pas les mêmes prémices qu'en 2011 ou en 2010, non. C'est plutôt un rejet contre des difficultés plus qu'une explosion sociale généralisée.
Mais Sidi Bouzid, un jeune marchand ambulant, c'était aussi immolé par le feu.
Oui, je sais, mais depuis, les choses ont changé. Du moment qu'il y a eu pas mal d'immolations par le feu, sur les 8 ans vécus par la nouvelle Tunisie, 2 ou 3 dizaines de gens immolés par le feu, le phénomène ne crée plus les mêmes réactions. D'ailleurs, même les réactions citoyennes lors des funérailles du journaliste Abdelazer n'ont pas été une occasion pour faire redémarrer l'explosion sociale. De l'avis même de tous les partis politiques, de la centrale syndicale, de la société civile, il y a même une éventualité que ce Abdelazer, que l'acte d'incendie, il est prémédité, oui, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait incendier.
Oui, apparemment, le ministre de l'Intérieur dit avoir arrêté même une personne en rapport avec ça.
Ma source n'est pas le ministère de l'Intérieur. Ma source, c'est la vidéo que j'ai vue moi-même, plusieurs vidéos de plusieurs angles différents. Sur ces vidéos, il y a bien quelqu'un qui était juste derrière Abdelazer et lorsque le feu s'est déclenché, il s'est enfui un peu.
Et vous pensez que ces tensions sociales, le gouvernement a les moyens de régler les problèmes de pauvreté dans l'ouest de la Tunisie?
Pas vraiment. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2010, l'UGTT, c'est-à-dire les syndicalistes, étaient avec la révolte populaire. La classe intellectuelle était assise contre Ben Ali et avec le soulèvement populaire. En ce moment, tout le monde est conscient des difficultés traversées par la Tunisie. Par conséquent, les réclamations ne sont pas telles qu'elles étaient en 2010. C'est-à-dire qu'il y a une conjoncture générale en 2010 qui n'est pas la même en 2018.
Notre confrère Mourad Selami, directeur de l'information du journal Le Quotidien de Tunis.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions.
Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle.
une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA et nos chaînes partenaires.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition de ce jeudi 27 décembre 2018. Zainab Abdel Rahman à la console, merci de l'avoir suivi. Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Lyon à ce micro. Nous émettons de Washington. Bonne journée.